Géographie vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les Chroniques de l'Histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les Écritures. Pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15 heures ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Is heard in barren land, Shiloh whispers in the sand. Adonai, we hear the call, Yeshua lights the path. The desert wind proclaims his name, Ruach moves through empty ground.
Voilà, donc bienvenue chers auditeurs, chers amis, bonsoir à tout le monde, vous êtes sur les 97.3 MHz, vous écoutez bien sûr Radio FM Espoir qui émet depuis la commune de Basse-Pointe, on dit que c'est la ville d'Aimé Césaire, que je n'ai pas connu à Basse-Pointe personnellement, mais on dit que c'est sa ville. Nous sommes dans la ville du Roi des Rois. Alors on va dire bonsoir à Karine, Karine bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous nos bien-aimés. Karine, la route a été bonne, la route a été limpide.
Oui, ça a été très bien. Très contente d'être là. J'attendais ce jour-là.
Avec patience.
Oui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir transmettre ce genre de choses.
D'accord. Ben, que Dieu te bénisse. Hein, je rappelle que quand tu fais de la route pour arriver ici...
C'est pas long.
Et nous
lorsqu'on
te remercions.
Lorsqu'on travaille pour Dieu, rien n'est long.
D'accord. Alors nous sommes dans l'émission Chronique biblique. Nous parlons de tous ces rois dans l'Antiquité, Karine, qui ne sont pas forcément des Israélites.
Amen.
Mais que Dieu a utilisé pour, d'une manière ou d'une autre,
voilà,
par rapport à son peuple d'Israël.
Voilà.
Il y a des rois que nous avons vus, tels que Nebuchadnezzar, tels que Darius, tels que Alexandre le Grand, qui quand même ont impacté le peuple de Dieu.
Ah oui, ce sont des rois qui ont utilisé des stratégies politiques qui ont réussi à modeler les récits bibliques. Donc c'est très intéressant.
D'accord, passionnant. Et tu nous apportes un plus, un très gros, grand plus, assez lourd par rapport à l'histoire de ces rois-là. On a une version biblique. Mais cette version biblique est souvent, il y a souvent un pont entre la version biblique et la version académique.
Oui, la version biblique, elle est souvent mise de côté pour des raisons encore, je dirais, d'égoïsme humain, malheureusement.
Mais quand tu es à l'école, que tu apprends l'histoire, Giro, quand tu tomber sur Alexandre le Grand, sur Nebuchadnezzar, hein, sur Darius. Est-ce qu'on te parlait de la Bible? Non, pas du tout.
Pas du tout. Les seules fois où on parle de la Bible dans le programme, c'est au collège, programme de 6e, 5e, où on nous présente les différentes grandes religions du monde. Donc on est amené à un moment à parler de Jésus-Christ, on nous dit qui il est. Mais on ne nous parle pas des miracles qu'il a mis en place. On nous dit juste qu'il a un grand message qui est En gros, le message nous dit aimez-vous les uns les autres et soyez unis. C'est tout.
D'accord. Mais souvent aussi, à l'école japonaise, on nous disait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais on évitait de nous parler pendant Jésus-Christ.
Oui, exactement. Oui,
on dit toujours avant et après.
Avant et après,
pendant, non, ça c'est pour l'Église.
Non. Mais néanmoins, Jésus-Christ reste un repère chronologique très important.
Incroyable, hein.
Ah oui.
On dit que tout a basculé, tout a changé depuis sa venue.
Oui, le monde. Alors, si vous voulez, nous sommes dans une civilisation chrétienne. Mm-hmm. Les Français sont avant tout chrétiens catholiques. Mm-hmm. Donc, le calendrier a été fait sur la base du catholicisme. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison qu'on prend comme repère la naissance de Jésus-Christ, qui est le chef du christianisme.
D'accord, Karine. En tout cas, merci d'être là et merci pour toutes ces précisions que tu nous apporteras ce matin. Vous êtes dans le cadre de l'émission chronique
biblique.
Et aujourd'hui, Karine, nous allons parler d'un roi, le roi Cyrus.
Le grand roi Cyrus de Babylone.
D'accord. Dans la Bible, on voit Cyrus. Hein. On voit quand même que Dieu parle de Cyrus en donnant son nom. Il parle de Cyrus 150 ans avant sa naissance.
Ah.
Dieu parlait de lui dans Ésaïe, Dieu parlait de Cyrus dans Ésaïe, mais il n'est pas encore né. Et Dieu l'appelle mon serviteur, mon roi. Ah. Et Dieu va utiliser Cyrus, dont tu vas nous parler tout à l'heure, qui va faire des décrets pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem qui était détruite en ce temps-là.
Okay.
Donc c'est des personnes, c'est des rois, on va dire païens, qui n'avaient rien à voir avec le peuple de Dieu, mais que souvent Dieu a utilisé par rapport à son peuple. Darius, Dieu les a utilisés pour délivrer Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, Dieu l'a utilisé aussi parce que Daniel était également à sa cour, à la cour de Babylone.
Okay.
Et plus de la moitié du livre de Daniel, ça a été écrit plus de la moitié. Alors que c'est Babylone qui régnait, et c'est Nebuchadnezzar qui régnait. Donc, on voit que ce sont des personnages. On disait au début de cette nouvelle série d'émissions que ces rois-là avaient une crainte, je ne sais pas comment on disait ça, c'était un respect des choses spirituelles.
Oui, exactement. Ils avaient le respect et la crainte spirituelle. Ça, c'est très, 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 très important. Mmh. Alors, ils croyaient en plusieurs dieux, mais ils respectaient les croyances des peuples conquis. Ça, oui.
D'accord. Je te lis juste un passage pour commencer, après je te laisse la parole.
Je veux bien, oui.
Et là où on parle du roi Cyrus, dans 2 Chroniques 36, versets 22 à 23, le roi Cyrus dont on va parler aujourd'hui, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi dont on va parler, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné, il dit que Dieu m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Et qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel Dieu soit avec lui et qu'il monte, autrement dit, monte pour rebâtir la maison de Dieu. Voilà, donc on voit d'emblée que c'est un roi que Dieu a utilisé pour la reconstruction de Jérusalem, notamment de la muraille de Jérusalem. Et je te laisse le soin de Karine de donner plus de détails au niveau académique par la grâce du Seigneur.
Alors oui, je vais vous donner effectivement des détails historiques, mais j'aimerais bien néanmoins avoir une, enfin que tu me racontes un peu l'histoire de Cyrus selon la Bible même,
oui,
parce que moi je l'ai au niveau historique, hein, où on parle de toutes les grandes conquêtes qu'il a pu faire, mais à aucun moment je n'ai dans mes recherches la présence de Dieu. Je ne vois pas la présence de Dieu dans mes recherches. Alors, pour le présenter au niveau historique, je vais commencer par une citation de Cyrus. Cyrus se présente comme suit. Je suis Cyrus, roi du monde, grand roi.
Roi du monde déjà.
Roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone, roi de Sumer, roi et roi d'Akkab. Je suis aussi le roi des quatre quarts de ce monde. C'est pour vous expliquer à quel point Cyrus était puissant. Cyrus, alors ce que je viens de vous lire là, ce sont des inscriptions qui sont gravées sur une tablette cylindrique retrouvée au 19e siècle. Ces mots commémorent la conquête de Babylone par la Perse et la prise de sa capitale homonyme en 539 avant Jésus-Christ. Alors, déjà, qui est Cyrus? Cyrus est un grand roi achéménide qui règne pendant 29 ans, de 559 avant Jésus-Christ à 530 avant Jésus-Christ. Il est le successeur de Cambyse Ier et lui succédera Cambyse II. Donc entre Cambyse Ier et Cambyse II, il y aura Cyrus. Alors Cyrus est de la dynastie des Achéménides. Il est né entre 600 et 576 avant Jésus-Christ. Il est né en Perse et il meurt en 530. Il meurt le long du sire Daria. Son père c'est Cambyse Ier et sa mère Mandane. Alors ça c'est très 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 important parce qu'on va voir que la mère de Cyrus, elle va avoir un impact très lourd dans sa vie. Cyrus va avoir trois conjointes dont il aura cinq enfants. Le prénom Cyrus puise ses racines.
Il était polygame comme beaucoup de rois de ce temps-là.
Alors, avant Jésus-Christ, on va remarquer que tous les rois sont polygames, tous. Et quand Jésus-Christ arrive, c'est là où il va mettre les lois qui disent qu'on ne peut pas avoir plusieurs femmes. Jésus-Christ va venir, si vous voulez, comment je peux dire ça ? Il viendra apporter des précisions sur la loi première. Donc, ne soyez pas surpris si tous les rois que je présente ont plusieurs compagnes.
Même David avait plusieurs compagnes.
Exact. Et c'est après Jésus-Christ qu'on va rentrer dans la monogamie. Ok ? Donc, Cyrus, c'est un prénom qui vient de l'ancien perse et c'est un terme qui est souvent associé à la grandeur et à la souveraineté. On le traduit par le soleil ou bien le jeune soleil. Donc, après l'arrivée de Cyrus au pouvoir en 559, la Perse a pu étendre son territoire pour former le tout premier véritable empire du monde. Donc c'est Cyrus qui va créer le tout premier empire du monde. Ok ? Mais avant cela, il y avait d'autres peuples comme les Assyriens. Ceux-là avaient régné sur de vastes régions, notamment en Mésopotamie. Mésopotamie. Toutefois, aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre la grandeur géographique de la Perse. Le territoire de Cyrus s'étendait de l'Europe de l'Est jusqu'en Inde. C'est pour que vous puissiez
c'est,
avoir...
C'est immense.
C'est, oui, c'est
beaucoup. Déjà l'Inde seulement,
oui,
c'est...
mais on part de l'Europe, ouais. Donc de la métropole, tout ça.
Oui.
Et on va jusqu'en Asie. Mm-hmm. Ça, c'était le territoire de Cyrus.
Mais quel,
tout ça.
D'après toi, comment quelqu'un pouvait régner sur un empire aussi vaste? Parce qu'il n'y avait pas autant de moyens de communication de nos jours.
Exactement. Alors
je pense qu'ils étaient bien organisés, bien structurés.
Alors, Cyrus, comme tous les grands rois, c'était un homme stratège d'une intelligence incroyable.
Ouais.
Avant lui, son père, Cambyse Ier, il était déjà relativement rodé. Mmh. Mais alors, Cyrus, lui, ouais. D'ailleurs, il est le premier fondateur d'un empire.
Ah, ouais.
C'est lui qui va créer le tout premier empire.
Ouais.
Les autres ont de grands royaumes, mais là, ouais, on parle d'un empire. Alors, l'empire est beaucoup plus grand que le royaume.
Alors, quelle différence tu fais entre empire et royaume?
Alors, l'empire, c'est ce qui... alors, l'empire se compose de plusieurs royaumes. Le royaume, lui, il a un seul roi. L'empire, il a une autorité absolue, et tous les états qui sont autour, donc tous les petits royaumes qui sont autour, lui sont soumis. Donc, si vous voulez, l'empereur, c'est le roi de tous les autres rois.
D'accord, okay.
En gros, c'est ça.
D'accord, ok.
Donc
c'est le premier, Cyrus, tu dis que c'est le premier
Cyrus,
à bâtir un empire.
C'est le premier empereur du monde.
D'accord.
Le tout premier.
D'accord.
Et cet empire, c'est un empire qui sera longtemps combattu, l'Empire Perse.
L'Empire Perse. On parle de nos jours d'empire médiatique.
Voilà.
Donc
ça, c'est lui.
Ouais, ouais. Exact. Donc ça vient de ça. Vas-y, continue.
Donc, pour pouvoir renforcer justement son empire, la politique de tolérance de Cyrus envers les territoires conquis va permettre, comme les autres rois qu'on avait pu voir, de conserver les langues, les traditions et les religions. Et en retour, cette stratégie a permis de construire la culture perse et de bénéficier d'une véritable mixité mondiale. La construction d'une identité d'empire par Cyrus, composée de plusieurs langues et religions, va continuer d'inspirer les communautés du monde moderne. C'est pour vous dire l'impact que Cyrus a eu jusque dans le monde moderne. Alors, pour que vous puissiez vous situer un peu historiquement, sur une frise chronologique, on parle du monde du monde moderne sur la frise. C'est de mon Dieu, je ne veux pas vous dire de bêtises. On est entre 1700 et 1800.
Mmh.
En gros. L'époque moderne se situe, excusez-moi, entre 1480 à peu près jusqu'en 1600. Nous sommes dans les temps modernes. Ok?
Oui.
Et nous, notre histoire avec Cyrus, elle remonte à 500 avant Jésus-Christ.
D'accord.
Donc, sur la frise chronologique, le mode de fonctionnement de Cyrus va le suivre, va perdurer jusqu'à après la naissance de Jésus-Christ. Or, Cyrus est né avant lui.
Ah oui.
Donc, il y a un écrivain grec qui s'appelle Xénophon, qui va souligner la puissance de Cyrus en disant « Aussi a-t-il éclipsé toutes les souverainetés que la naissance ou le droit de conquête a placé sur le trône. » C'est pour vous dire à quel point Cyrus était important. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons voir les origines de l'Empire. Lorsqu'il est couronné roi de Perse en 559, Cyrus n'était autre qu'un simple chef tribal du peuple Parsua qui s'était installé dans le sud de l'actuel Iran. C'est le dernier dirigeant de la dynastie Achéménide et Cyrus hérita d'un royaume qui était un état vassal. Alors, un état vassal, c'est un pays qui dépend d'un autre encore plus puissant que lui. Et donc, il lui doit donc une aide militaire, un soutien économique, etc. En 612 avant Jésus-Christ, les Mèdes avaient pris possession de la capitale assyrienne Ninive. Alors, je sais qu'on en parle dans la Bible, ça, me semble-t-il. Les Mèdes avaient ainsi pris le contrôle d'un territoire qui s'étendait sur toute la Mésopotamie. Plus tard, à l'apogée de son pouvoir, Astyage, le roi des Mèdes, il a décidé de marier sa fille Mandane au roi des Perses, Cambyse Ier. Et c'est eux qui vont avoir Cyrus. Donc leur fils Cyrus allait non seulement conquérir les Mèdes, mais aussi construire le véritable premier empire de l'histoire. Peu après, donc environ un siècle après la mort du roi, un écrivain qui s'appelle Hérodote, il a écrit un récit sur la naissance de Cyrus. Mmh. Et c'est quelque chose qui deviendra très populaire. Et l'histoire de Cyrus, selon cet écrivain, évoque de nombreux mythes, comme le mythe de la la légende de Oedipe. Je ne sais pas si tu sais ce Deep. Que c'est. Oedipe.
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 Non.
Alors, Oedipe, c'est si vous voulez, alors que je recherche ça.
La légende d'Oedipe.
Oui, la légende d'Oedipe. Donc, la légende d'Oedipe, c'est un mythe, c'est un récit de la Grèce antique qui raconte la vie tragique d'un prince qui a été condamné par le destin à tuer son père et à épouser sa mère. Je ne sais pas si tu as entendu parler du complexe d'Oedipe.
Oui, apparemment, oui.
Généralement, on dit que les petits garçons sont beaucoup plus proches de leur maman et les petites filles plus proches de leur père. Ça fait partie des nombreuses légendes qui appartiennent au roi Cyrus. Donc, l'écrivain grec dont je vous ai parlé, qui s'appelle Hérodote, il raconte comment le roi Astyage avait rêvé de sa fille.
Mais Karine, juste une parenthèse.
Oui.
Mais je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis là. Ce que tu dis, ce que tu nous apprends là. Par rapport au complexe d'Oedipe.
Oui.
Mais on sait qu'on parle de mythologie, on est dans la mythologie grecque, tout ça. Oui. Mais je suis en train de me dire, mais foutaise, mais c'est vrai. Souvent, on voit les petits garçons sont très attachés à leur mère.
Oui.
C'est une réalité.
Oui.
Et
oui, oui.
Et les petites filles sont attachées à leur papa.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, ça viendrait visiblement.
De ça
D'un songe que le roi Aspiage a eu.
Oui.
Et il avait vu, si vous voulez, que sa fille. Enfin, de sa fille allait naître sa propre perte.
Oui. Mmh.
Donc, il en avait très peur et il avait même songé à épouser sa propre fille.
Sa propre fille, ouais. Ouais.
Donc, on explique que Cyrus, qui était considéré par le peuple comme un dieu.
Oui.
Lorsqu'il a compris ce que son père souhaitait faire, il se serait engendré lui-même. Mais là encore, ce sont des légendes.
Des légendes, d'accord.
Voilà, j'insiste bien sur le fait que ce sont des légendes. On est sur une radio chrétienne, hein, pour qu'on n'aille pas dire que Karine raconte des choses invraisemblables. Ce sont des légendes. Je rappelle qu'une légende, c'est une histoire inventée.
Oui, et puis comme ça nous donne une idée de l'atmosphère d'un temps.
Exactement.
Il y avait beaucoup de mythes, beaucoup de légendes.
Exactement.
Mais quand même, ça nous parle un peu, nous, parce qu'on fait le constat.
Oui.
Et nous, on est le constat, on voit bien que très souvent, les petits garçons sont attachés à leur maman, les petites filles à leur papa.
Exactement.
Ça, c'est le constat que nous faisons.
Oui.
Mais de là à dire que ça vient de là, de cette histoire-là, non. Ça,
voilà, non. Je rappelle, ce sont des légendes. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est de là que ça vient. Les gens, à l'époque, étaient très...
superstitieux.
Très superstitieux, avec plein de pratiques un peu spirituelles.
Mélangées.
Mélangées.
Il y a des magiques. Les rois aussi.
C'est mystique. Oui.
Les rois aussi, de ce même.
Oui.
Voilà.
Donc, un rêve est très vite mal interprété. Et de l'interprétation peut naître mille et une histoires.
Mais souvent, Karine, on voit que à la cour de ces rois-là,
oui,
il y avait toujours des mages, des personnes qui pouvaient expliquer les songes et les rêves.
Exactement.
Parce que ces rois-là, justement, accordaient beaucoup, beaucoup d'importance aux rêves.
Exactement.
Et aux songes.
Oui.
De nos jours, on sait que tout homme rêve, que nous rêvons tous, et que tous les rêves n'ont pas forcément de sens.
Mais on cherche quand même à les comprendre. Hein.
Oui.
Alors, je ne sais pas pour toi, mais je sais que nos arrière-grands-parents, bon, moi, je ne les ai pas connus, mais de ce que ma grand-mère me racontait, il y a des rêves qu'on pouvait faire. Certaines fois, en fonction de ce qu'on voyait, ce n'était pas bon signe. Ou autre. Par exemple, quand on rêvait des selles humaine, ça pouvait s'apparenter à de l'abondance financière.
Ouais.
Bon, je n'ai jamais compris le lien entre les selles humaines et l'abondance financière, mais visiblement,
ça avait un sens pour eux.
Ça avait un sens pour eux. Bon.
D'accord. Donc, on revient à notre...
Pour en revenir, donc le roi a fait un rêve, donc il a rêvé de sa fille et il consulta les sages. Alors, les sages ont interprété son rêve comme un présage qui indiquait que son petit-fils irait un jour conquérir les Mèdes. Et afin de contrer cette prophétie, Astyage aurait marié sa fille à un dirigeant perse pour que sa descendance ne puisse renverser le trône Mède. Ok. Plus tard, Astyage fit à nouveau un rêve dans lequel il vit sa fille qui avait une vigne qui germait dans son ventre et qui se répandait sur toute l'Asie. Donc, Astiage a été stressé, il a paniqué et alors il a décidé de placer sa fille sous surveillance. Il ne voulait pas que sa descendance puisse prendre plus de pouvoir et de place que lui. Donc, selon la légende toujours, après la naissance de Cyrus, Astiage ordonna à son général en chef, qui s'appelait Arpage, de tuer le nouveau-né. Et plutôt que de commettre ce meurtre irraisonnable, Arpage a confié le nouveau-né à un berger. Et il lui a demandé d'abandonner l'enfant dans les montagnes. Or, la femme de ce fameux berger venait de perdre un enfant. Elle venait de donner naissance à un enfant mort-né. Alors, d'un commun accord avec son épouse, le berger a donc décidé de ramener le petit Cyrus chez lui et de placer son propre enfant, qui était leur propre enfant décédé, dans les montagnes. Et c'est comme ça que Cyrus a survécu.
D'accord. Déjà, on a l'impression qu'on est dans du copier-coller avec l'histoire de Moïse.
Exactement.
Ça me fait penser à l'histoire de Moïse.
Exactement. J'ai lu je me suis dit la même chose. Alors, je tiens quand même à préciser aux auditeurs qui nous écoutent que toutes les informations que je vous donne, elles sont vérifiables sur le site de National Geography. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. J'ai fait mes recherches et sur le site de National Geography, j'essaierai de vous mettre le lien sur le site de la radio, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Donc, pour en venir à ce que nous disions, effectivement, ça ressemble à l'histoire de Moïse.
Il a une vie, une naissance, on va dire une renaissance miraculeuse comme Moïse.
Voilà. Et finalement, alors, il va s'avérer que, Cyrus n'est pas mort. Et il se trouve qu'il va prendre la place de son grand-père.
Voilà.
Alors, nous pouvons passer à la deuxième partie de notre présentation. Alors, certes, le récit d'Hérodote, l'écrivain grec, présente de nombreux éléments mythiques, mais comme toutes les légendes, ça contient quand même une part de vérité. Pourquoi je le dis ? C'est parce que plus tard, dans la vie de Cyrus, il va en effet menacer son puissant grand-père, Astiage, lorsqu'il a envahi le territoire des Mèdes en 550 avant Jésus-Christ. Donc, le rêve que son grand-père Astiage avait eu, qui expliquait que son petit-fils allait conquérir les Mèdes, ça s'est réalisé.
C'est ce qu'on voit, parce que ça se concrétise là.
Voilà. Donc, le roi Astiage a fait appel à son général, le général Arpage, afin de pouvoir contrer Cyrus. Mais le général se rangea du côté de Cyrus. Et c'est ainsi que le roi, le nouveau roi perse, a pu s'emparer de la capitale des Mèdes. Et à partir de cet instant, comme le raconte l'écrivain grec, les Perses et les Mèdes furent unis par Cyrus qui fut appelé par la suite Cyrus le Grand.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si cette histoire-là, elle est racontée dans la Bible. Je
non, il n'y a pas autant de détails. Hein. Non, il n'y a pas autant de précisions. Peut-être dans le livre, dans les livres apocryphes de la Bible, mais dans la version canonique, la Bible Second, par exemple, que tout le monde connaît, il n'y a pas autant de précisions. On nous parle bien sûr de Cyrus. Mm-hmm. On nous parle surtout de Cyrus. Lorsque ça a un rapport direct avec le peuple d'Israël. Parce que lorsqu'il a proclamé les deux édits qui permettaient que les Juifs partent reconstruire la muraille de Jérusalem, on nous en parle. Okay. On nous parle de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais à ce niveau-là, non, pas du tout.
Ok. Bon. Alors, on continue. Donc, après avoir conquis le royaume des Mèdes, Cyrus s'intéressa au royaume de Lydie, L-Y-D-I-E, qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Alors, pourquoi il s'intéresse à ce royaume? C'est un royaume très intéressant stratégiquement. Alors, il est situé à l'ouest de la Turquie actuelle, près de la mer Égée. Et il est là pour capitale la Sarde. C'est un pays qui regorgeait de pierres précieuses. Donc, on y retrouvait surtout de l'or. Et c'est notamment grâce à un fleuve, le fleuve Pactol, qu'ils ont pu créer les premières pièces de monnaie en métal précieux. Ok. Et le royaume de Lydie avait comme roi un homme appelé Crésus. Donc, je ne sais pas si tu connais cette expression, être riche comme Crésus.
Crésus, absolument, oui.
Voilà. Et bien, Crésus était le roi du royaume de Lydie. Il était tellement riche que aujourd'hui, en 2026, pour trouver de l'or, on est obligé d'écraser des roches, on est obligé de trier dans l'eau et tout. Là-bas,
on ramassait.
Tu rentrais dans l'eau, tu te blessais sur des gros blocs
d'or.
D'accord. Tellement il était riche.
Riche comme Crésus.
Exactement. Et bien, Crésus a été vaincu par Cyrus le Grand en 547 avant Jésus-Christ.
Alors, juste pour te dire, tu tiens ton fil, juste pour vous dire, cher auditeur, que en fait, Daniel, lui, le prophète Daniel, a connu Cyrus.
Ah!
Alors, dans Daniel chapitre 1, verset 21, tu vas lire pour nous. Daniel chapitre 1, verset 21.
Daniel chapitre 1.
Daniel, c'est un sacré vieillard parce qu'il a connu pas mal de rois païens. C'est incroyable. Mais il a connu aussi Cyrus. Eh oui, il a connu aussi Cyrus. Daniel chapitre 1, verset 21.
Verset 21.
Oui.
Alors, Daniel chapitre 1, verset 21 nous dit. Je commence au verset 21. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Chapitre 2, la seconde année du règne de Nabucodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il perdit le sommeil. Eh ben, Daniel a connu Cyrus.
Alors, Daniel a connu au moins 6 rois. C'est dire à quel âge il est mort. Il a connu Nebuchadnezzar, il a connu Evil-Merodach, il a connu Belshazzar, qui est l'arrière-petit-fils de Nebuchadnezzar, il a connu Darius, dont on a parlé la semaine dernière, et il a connu Cyrus.
Lors de sa première année. Donc en fait, je pense que Daniel a dû mourir à la première année du règne de
Cyrus.
De Cyrus, alors.
Il est mort pendant le règne de Cyrus, oui. Et non, il est mort très âgé. Et les rois qui l'ont connu, tous ont connu sa sagesse et faisaient appel à lui. Parce qu'il avait une telle renommée de sagesse Mais un moment, il a changé Daniel. Un moment, quand il était jeune garçon et quand il était âgé, et il reprenait les rois ouvertement. Parce qu'on voit qu'il parlait d'une manière à Nebuchadnezzar, mais à Belshazzar, son petit-fils, il parlait autrement. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un qui est à la fin de sa vie et qui n'avait plus rien à perdre. Et par exemple, il a dit au roi Belshazzar, tes présents, tu peux les garder. Tu peux les garder pour qui tu veux. Mais je vais t'expliquer quand même le songe que tu as eu. Compter, peser et diviser. C'est lui qui a expliqué le songe à Belshazzar, qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et il lui a expliqué le songe, mais il a repris le roi d'une manière assez forte, assez violente. Et sous Cyrus, il était déjà là et il est mort sous le règne de Cyrus. Et si tu prends dans Daniel chapitre 6, verset 28.
Alors, Daniel chapitre 6, verset 28 nous dit il délivre et il sauve et il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel des griffes du lion. Daniel prospérera sous le règne de Darius, c'est-à-dire Cyrus le Perse.
D'accord, donc tu vois, il a prospéré. Donc c'est un homme de Dieu qui a connu pas mal de rois, notamment Cyrus. Et je pense que c'est le dernier roi qu'il a connu. Et quand j'en calcule, il a connu 1, 2, 3, 4, 5, 6 rois.
Alors il a connu Cyrus 1er, nous on est sur Cyrus
2. Cyrus 2. Voilà.
Ouais.
Et quand tu lis aussi Daniel 10, verset 1.
Daniel 10, verset 1. 10, 1. Dans la troisième année du règne de Cyrus, l'empereur perse, un message fut révélé à Cyrus. Un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belshazzar. Cette révélation est authentique. Elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision.
D'accord. D'accord. Donc tu peux t'arrêter. Donc on voit que dans le livre de Daniel, tu vois, il y a pas mal de songes, de visions, des révélations.
Oui.
Nous étions à une époque où quelque part, on va dire que Dieu parlait beaucoup par vision, par songe et par révélation. Même les rois, on a l'impression que Dieu semait comme ça des visions et des révélations. Et même les rois païens étaient touchés, impactés par ça. Cyrus a eu des visions. Daniel a eu des visions. C'est un prophète, c'est normal. Mais Belshazzar a eu des visions. Nebuchadnezzar, ils ont tous eu des visions et des songes. Mais qui ne comprenaient pas. Donc ce que ces rois faisaient, ils appelaient des mages, des magiciens pour essayer d'avoir une explication à leurs songes. Mais chaque fois, on allait chercher Daniel parce que c'est lui seul qui avait la capacité de vraiment dire la vérité par rapport à ses songes, à ses visions.
Wow, excellent.
Extraordinaire.
Vraiment.
Oui.
Donc, pour en revenir à notre roi Crésus, alors, les Lydiens étaient réputés pour le commerce et ils sont ceux qui ont mis en place les Lydiens ont mis au point les bases du système de monnaie métallique encore utilisé aujourd'hui. Autrement dit, c'est sous le roi Crésus que les Lydiens ont mis en place les pièces de monnaie que nous connaissons à l'heure qu'il est. C'est-à-dire que les pièces de monnaie ont un poids en or. C'est sous le règne des Lydiens que cette méthode de paiement est née.
D'accord.
Voilà, donc ça c'était pour la petite info culture générale. Donc en 547 avant Jésus-Christ, Crésus, donc le roi lydien, il fit plusieurs incursions sur le territoire des Mèdes. Il n'en fallait pas plus à Cyrus pour qu'il trouve une excuse parfaite pour pouvoir envahir les terres lydiennes. Selon les chroniques babyloniennes, donc c'est un récit qui se trouve gravé sur des tablettes d'argile, Cyrus traversa le fleuve du Tigre et se dirigea vers la capitale lydienne qui, je le rappelle, s'appelle Sparte. Il longea ce qui, par la suite, deviendra la voie royale perse, érigée plus tard par Darius Ier pour pouvoir relier la ville de Sardes aux autres villes stratégiques de l'Empire perse. Alors, j'essaierai de vous mettre sur le site quelques photos. Notamment
le site www.fmespoir.fr.
Voilà, merci beaucoup. J'essaierai de vous mettre quelques photos, notamment la photo d'un bracelet qui aurait appartenu à Cyrus, où on retrouve des griffons en or. Alors je ne peux pas trop vous le décrire. Il est en or. On y voit de part et d'autre un aigle avec des ailes en or et puis des cornes qui ressemblent à des cornes de bélier. Enfin bref, ça a l'air assez gros. C'est un bracelet en or qui a été retrouvé près du fleuve, donc le fleuve où il faisait les allers-retours, dans les années 1860.
D'accord.
Donc,
alors, Karine, il faut dire que là, et d'après tout ce que tu dis là, je comprends qu'il y a au moins, d'après, peut-être on va y arriver, il y a eu au moins 3 Cyrus.
Oui.
Et la Bible parle d'un seul, hein,
de oui.
Deux. Le Cyrus, Cyrus II, celui que tu appelles Cyrus le Grand.
Voilà,
et,
c'est lui.
Et tu as dit qu'il est né entre 600 et 530 avant Jésus-Christ.
Oui.
Mais autrement dit, son grand-père, on n'en parle pas dans la Bible. Et son père, et son fils, on n'en parle pas. Cyrus III, on n'en parle pas dans la Bible.
Non.
Mais le Cyrus dont tu parles, c'est Cyrus II, le Cyrus le Grand.
Oui.
Et c'est lui que Dieu a appelé mon roi Cyrus.
D'accord.
Et c'est lui qui va reconstruire la muraille de Jérusalem.
Oui.
Mais de la Bible, on n'en parle que de lui. Les autres, on n'en parle pas.
Non. C'est vrai. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Hein. En gros, parce qu'il est déjà 48, il ne nous reste que 10 minutes et je ne suis même pas à la moitié.
Donc, on peut faire un deux fois, Karine, si tu souhaites.
Si c'est possible, oui.
Oui.
Donc, pour pouvoir finir sur ça rapidement, Cyrus voulait absolument obtenir la Lydie. C'était très important pour lui, puisqu'ils sont extrêmement riches. Donc, il y a eu une première confrontation non décisive, et à la suite de cette bataille, Crésus ordonna à ses troupes de se replier dans leur quartier pour pouvoir aller alerter les Spartes, les Égyptiens et les Babyloniens. Néanmoins, Cyrus, lui, il a choisi de se risquer à une nouvelle attaque immédiate contre Crésus et son commandant militaire. Rappelez-vous, c'était le chef des armées de son grand-père. Donc, le commandant militaire a réussi à arracher une victoire en offrant Sardes et ses trésors à l'empereur perse, donc à Cyrus.
À Cyrus le Grand. D'accord. Alors, Karine, juste pour que les auditeurs qui nous écoutent aient une idée de l'empire de Cyrus, alors, tu nous as dit qu'il y a toute l'Europe.
Oui.
Autrement dit, quand on te parle de l'Europe, on parle d'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France.
Exactement.
Quoi encore?
Ah ben, on parle de l'Allemagne. On parle de la Belgique, on parle
de l'Europe entièrement.
Entièrement, plus de la Suède, de la Finlande, de la Russie, de l'Ukraine, tout ça.
Tout ça, plus l'Asie.
Jusqu'en Asie.
Ah oui.
Donc on parle de la Chine, de la Mongolie et de l'Inde.
Et là, déjà, on sait que la Chine, c'est combien de milliers d'habitants? un milliard d'habitants.
La Chine, on est à plus de 1 milliard, oui.
1 milliard d'habitants. L'Inde aussi quasiment.
Oui, oui, oui.
Donc
oui.
Ça veut dire que c'était le monde entier quasiment.
Amen. Oui.
Quasiment le monde entier.
Oui, 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 oui.
D'accord. Oui. Un seul homme règne sur un empire aussi vaste.
Un seul homme, oui.
Ouais. Ouais.
Donc, au cours de une fois qu'il a eu ça, peu de temps après, Cyrus a étendu son contrôle jusqu'aux villes ioniennes grecques situées le long de la côte ouest de l'actuelle Turquie. Au cours de la décennie suivante, le règne de Cyrus se focalisa sur l'expansion de son empire à l'est, en soumettant ses territoires et son autorité. Il put contrôler les routes commerciales où passaient les différentes caravanes. Ces campagnes le menèrent jusqu'à l'Afghanistan actuel, pour finalement atteindre une ville située au niveau de l'actuel Ouzbékistan.
C'est
alors, si vous avez du mal à vous repérer avec ce que je dis, je comprends. Il vous faut impérativement une carte de l'Europe sous les yeux.
Ah oui.
Pour que vous puissiez avoir une idée où ça part et de où ça arrive.
Non, mais quand on regarde la Russie, quand on regarde la Chine, quand on regarde l'Inde sur la carte déjà,
exact.
Tu vois c'est l'immensité
immense.
De l'empire qu'il gérait.
C'est immense, ouais. C'est immense. Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose de très important. Sur les planisphères qu'on nous présente à l'école, on a tendance à voir que le continent africain est plus petit que celui de l'Europe et de l'Asie. C'est le contraire.
Oui, oui.
Le continent africain est beau, c'est le plus grand continent du monde.
Oui.
Donc, ne soyons pas surpris si on voit que l'Europe et l'Asie sont beaucoup plus grandes. Comme la planète est ronde,
oui.
Pour pouvoir mettre la photo
d'une
sphère à plat, on est obligé de réduire sur la taille de certains continents. Et comme, sans vouloir mettre les pieds dans le plat, comme l'Afrique, c'est un continent
noir. Oui.
Voilà, c'est ce que je ne voulais pas forcément dire à la radio. Comme l'Afrique, c'est un continent noir, et que les scientifiques qui ont travaillé sur les tailles des continents ne sont pas africains, ils ont jugé bon de réduire sur le continent africain et non sur le continent européen.
Voilà.
Donnant comme excuse qu'il fallait voir tout ce qui se passe au-dessus du continent comme le pôle Nord.
Voilà. Alors que le pôle Nord, c'est pas tellement habité, ça.
Non.
D'accord.
Non. Et que le pôle Sud est beaucoup plus grand. Alors lui aussi extrêmement froid, lui il est inhabité complètement, il n'y a aucune forme de vie sur ça à part les microbes et tout ça, ce genre de choses. Mais le pôle il y a plus d'activité sur le nord de la planète que sur le sud.
Absolument.
Donc quand vous regardez le planisphère pour voir d'où part l'immensité de l'empire perse, notez bien que sur votre planisphère, le continent africain est plus grand.
Nous faisons une petite pause, Karine, et puis on se retrouve juste après ceci.
Ok.
Ils ont bâti des empires, conquis des nations, changé le cours de l'histoire. Qui étaient réellement Darius, Alexandre le Grand, Artaxerxès, Hérode et ces grands souverains qui ont marqué leur époque ? quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du peuple de Dieu ?
Dans les chroniques de l'histoire biblique, Karine, professeure d'histoire-géographie, vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les chroniques de l'histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les écritures. Pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15 heures ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Ils ont bâti des empires, conquis des nations, changé le cours de l'histoire. Qui étaient réellement Darius, Alexandre le Grand, Artaxerxès, Hérode et ces grands souverains qui ont marqué leur époque ? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du peuple de Dieu ?
Dans les chroniques de l'histoire biblique, Karine, professeure d'histoire-géographie, vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les chroniques de l'histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les écritures. Pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15 heures ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Voilà, donc comme vous avez compris, on retrouve Karine la semaine prochaine. Karine, le mot de la fin, puisqu'on a parlé de roi qui régnait sous un empire. C'est pas peu de le dire, Karine, nous t'écoutons.
Alors, le mot de la fin, alors j'ai pas tout dit. Mm-hmm. Je pense qu'on fera la suite la prochaine fois. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que Cyrus, c'est un grand roi, un roi que Dieu lui-même a choisi selon ce que la Bible nous dit. Mais l'histoire nous montre aussi que c'est un roi qui a eu un impact politique très impressionnant qui nous suit jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Voilà, en gros, c'est ça. Et la prochaine fois, on va voir comment il a conquis les eaux de Babylone, quelle était sa méthode de gouvernance. On va voir ensuite comment Cyrus a réussi à s'imposer dans le monde. On va voir comment il est mort. Mm-hmm. Et enfin, on fera notre conclusion qui va reprendre un peu ces grands thèmes.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Karine. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que quand je lis cette histoire, je vois effectivement que Dieu fait ce qu'il veut, dans le sens que, sur une famille comme ça, il n'a pas choisi le père, il n'a pas choisi le petit-fils, il a choisi le fils. Il a choisi Cyrus II. Il y avait le père de Cyrus II, que Dieu n'a pas choisi. Il y avait le fils de Cyrus II, que le père n'a pas choisi. Il a choisi Cyrus le Grand. Autrement dit, entre les deux, il a choisi Cyrus le Grand. Mmh. Et qu'il a appelé mon roi. Il a même appelé dans un certain verset dans Isaïe le sauveur. Donc c'est ce Cyrus le Grand qui a permis que la muraille de Jérusalem soit rebâtie. En tout cas, merci beaucoup Karine, et on te dit à
mercredi prochain
14h. Et je rappelle que toutes tes émissions sont disponibles sur notre site internet www.fms3.fr. Sinon, pour être plus simple, vous tapez FMS3 dans Google, dans Orateur, vous allez voir Karine, vous pouvez trouver ses émissions audio et télécharger si besoin était. Et Karine, tu nous as dit que tu mettras d'autres informations dessus ?
Oui, alors j'essaierai de mettre des photos qui illustrent tout ce que je raconte.
D'accord. Merci Karine, à très bientôt.
Merci,
que Dieu vous bénisse
à très
dans
bientôt.
Un instant à 17h, caravane éthiopienne.